France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes, Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier sur le plus grand comeback de l'histoire politique américaine, celui de Donald Trump. Et puis pour le débat, nous recevrons un politiste et historien des idées, professeur à l'université de Nice et à l'école polytechnique. Il dirige un ouvrage stimulant intitulé « Les temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des Trente Glorieuses » aux éditions du Seuil. Un livre qui nous invite à sortir du mythe précisément des Trente Glorieuses. Un mythe qui, selon lui, nous enferme dans un récit qui nous empêche de penser le temps présent et le moyen de relever les défis qui se présentent. Du passé, faut-il faire table rase ? On en débat aujourd'hui avec Vincent Martini, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Negaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Bonjour.
Alors avant d'entamer ce duel, Natacha, vous vouliez à votre tour rendre hommage à un homme, un journaliste, qui a beaucoup compté pour vous et qui nous a quitté cette semaine, c'est Jean-François Kahn.
Oui, Jean-François Kahn, qui, il faut le rappeler, a été d'un poids immense dans l'histoire de la presse française. Et bien plus que ça même. D'abord parce qu'il a, bon, il a eu une carrière très longue de journaliste et de passeron de presse. Hein, il faut le rappeler, L'Express, Europe 1 dans les grandes heures de cette station. Et puis France Inter aussi, parce qu'il était passionné de chansons françaises, d'opérettes. Il avait une culture absolument folle. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a osé lancer des journaux à une époque où c'était pas si facile. L'événement du jeudi, bien sûr, sur souscription. C'est-à-dire qu'il a inventé l'idée d'un journal militant tenu par ses lecteurs, porté par ses lecteurs. Et puis Marianne, qui était le projet de relance de l'événement du jeudi, mais on lui avait expliqué qu'il était trop vieux, qu'il était fini et que donc c'était pas la peine de faire ce projet de relance. Et puis Jean-François Kahn était quelqu'un dans le paysage idéologique français extrêmement important, parce que c'est le premier sans doute d'abord à avoir tonné contre ce qu'il appelait la pensée unique journalistique, et il a été un des premiers à voir à quel point il y avait un divorce entre les citoyens et les médias. Et derrière, c'était l'idée d'un dépassement du clivage gauche-droite, parce que, selon lui, c'était une répétition des guerres de religion. Et que ce qu'il voulait, c'était qu'on soit capable d'analyser ce qu'il y avait d'intéressant, ce qui allait dans le sens du bien commun, sur l'ensemble du spectre politique. Bref, je pense qu'il va falloir regarder tout son travail, toute son œuvre, mais en tout cas, il mérite qu'on lui rende un hommage plus qu'appuyé.
Le grand face-à-face, le duel.
Mes chers compatriotes, l'âge d'or de l'Amérique commence dès aujourd'hui. À partir de ce jour, notre pays va s'épanouir et être respecté à nouveau dans le monde entier. Nous ferons l'envie de toutes les nations et nous ne nous permettrons pas d'être pris comme dindon de la farce. Dès le premier jour de l'administration Trump, très simplement, je vais faire passer en premier l'Amérique. L'Amérique, très bientôt, sera plus grande, plus forte et bien plus exceptionnelle que jamais auparavant.
America First, lundi, le 47e président américain Donald Trump a donc prêté serment. Et il a prononcé, on l'a entendu, un discours aux accents plutôt revanchards. 5 jours au pouvoir depuis, en ressenti plusieurs mois, Gilles. Tant Donald Trump est hyperactif, des dizaines de décrets ont été signés. Qu'est-ce que vous retenez-vous de ce retour aux affaires du président américain de cette première semaine au pouvoir ?
Je crois que quand on regarde cette cérémonie d'investiture, d'abord, on a des sentiments très très forts. C'est rare devant la politique, tour à tour d'embarras, d'hallucination, de consternation,
de sidération.
Si on essaye d'aller au-delà des sentiments, moi, il y a 3 choses qui m'ont frappé. D'abord, la chorégraphie. Quand on regarde le spectacle, à la fois du discours d'investiture et de la signature de ces décrets, c'était pas un président ou pas seulement un président investi devant les institutions, c'était un président sacré devant ses supporters. Et on s'interroge parfois sur la pertinence du mot populisme. Eh bien, s'il y a du populisme chimiquement pur, c'est exactement ce à quoi nous avons assisté. C'est-à-dire que les institutions s'effacent au profit d'un dialogue direct entre le chef et ses supporters. Je dis d'un dialogue plutôt d'un monologue. Deuxième chose, l'argent. L'omniprésence de l'argent. À la fois le pouvoir par l'argent, mais aussi la présence au pouvoir avec la figure d'Elon Musk, mais aussi dans un mélange de puissance et d'allégeance des autres milliardaires de la tech, mais surtout le pouvoir pour l'argent. Et ça, c'était très frappant quand on écoutait le discours de Donald Trump. La finalité, et la finalité assumée de tout, c'était « on va gagner un paquet d'argent ». Et puis, dernier élément, les États-Unis. On a entendu l'âge d'or est de retour, un discours messianique dans la tradition américaine, l'objectif Mars étant le symbole peut-être le plus spectaculaire. Ça, c'est le patriotisme, c'est l'amour des siens. Mais l'autre élément, c'est là aussi un nationalisme échevelé, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'amour des siens, c'était l'indifférence ou l'hostilité à tous les autres, la supériorité des États-Unis. Et donc, si je résume, populisme chimiquement pur, plutocratie décomplexée, nationalisme échevelé, les caractéristiques de Trump 2, c'est quelques degrés supplémentaires par rapport à Trump 1. Mais il faut ajouter un tout dernier élément qui est la préparation. Grande différence, c'était la signature, c'était ses décrets, l'avalanche de décrets. Il a utilisé à la fois le temps dont il disposait avec les vertus de cette transition organisée, l'expérience du premier mandat. Et là, je crois qu'il y a une différence de nature se faisant entre Trump 2 et Trump 1 et que le mandat qui commence est un mandat véritablement inquiétant.
Quelques degrés de plus que Drill Baby Drill, le forage effectivement pourrait produire en tout cas ses conséquences bien réelles sur le climat. Gilles évoquait le populisme chimiquement pur, c'est vrai que ça se résume dans une formule de Donald Trump, la révolution du bon sens. On est vraiment dans quelque chose qui rappelle les grandes heures du populisme ici comme ailleurs.
Oui, le terme bon sens est assez caractéristique. Il y aurait une étude très vaste à faire sur l'utilisation de cette expression bon sens, aussi bien aux États-Unis, en effet, qu'en France, où ce terme s'est répandu. J'ai été frappée à peu près par les mêmes éléments que Gilles. En effet, ce populisme chimiquement pur dont il parle, il s'incarne très directement dans cette espèce de cérémonie performative de signature des décrets. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en scène un leader qui est le bras armé du peuple pour agir. J'ai trouvé que c'était extrêmement malin de sa part de faire ça, et j'allais dire, dans un sens assez terrifiant. Pourquoi ? Parce que nous voyons que toutes les démocraties sont fragilisées par cette difficulté à faire émerger et à traduire la volonté des citoyens. Nous en débattons ici extrêmement souvent. Et la réponse qu'apporte Donald Trump est profondément dangereuse, en fait, parce qu'il prétend répondre à un problème qui est un problème véritable, à savoir la question de cette crise démocratique qui fait que les citoyens ont l'impression d'avoir perdu leur souveraineté, leur capacité de décision, et il prétend y répondre par la brutalité, la puissance et l'effacement de cet état de droit dont on peut estimer en effet qu'il est parfois utilisé contre les citoyens. Je m'explique. Parmi les premiers décrets, celui sur le droit du sol, par exemple, a été immédiatement contesté parce que le 14e amendement de la Constitution inscrit le droit du sol dans la Constitution américaine. Donc 22 États ont contesté, évidemment des États des démocrates, et s'engage une bataille judiciaire. Mais c'est exactement ce que cherche Donald Trump. Il savait très bien que les décrets qu'il a mis en scène pour montrer qu'il agissait dans le sens de ce que voulait le peuple allaient être contestés. La bataille judiciaire, premièrement, va montrer aux supporters de Donald Trump à quel point l'État, ce qu'il appelle l'État profond, et les juges et tout cela veulent empêcher les citoyens d'agir et de réussir. Et derrière, il espère bien que ça va remonter à la Cour suprême, qu'il a largement orientée par ses dernières nominations quand il était président. Bref, on a là un travail de bouleversement, un positionnement des curseurs qui est en train de bouger à une vitesse faramineuse. Deuxième point, très rapidement, ce qui m'a frappé également, c'est le discours d'Elon Musk. Pourquoi ? Parce que il y avait une efficacité dans l'appel au rêve américain. C'est-à-dire qu'il y avait de l'enthousiasme et la volonté de faire rêver les supporters qu'il avait en face de lui. On va aller planter le drapeau américain sur Mars. C'est le retour de la nouvelle frontière. Alors on va dire que c'est typiquement américain, mais en fait, ça réveille, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec notre invité, tout l'imaginaire du progrès qui est ancré dans la culture occidentale. Et c'est cette idée que l'Europe, par exemple, aurait abandonné l'idéal du progrès et que eux vont le revivifier. De la pire des manières, bien sûr.
Un mot, Gilles, sur la tension qu'évoquait Natacha et qui me semble essentielle entre l'état de droit et la démocratie au sens illibéral du terme. On voit bien le piège dans lequel fait tomber la démocratie américaine ici Donald Trump, mais c'est des questions qui se posent là-bas comme ici sur la question de l'état de droit. Et vraiment, cette question du droit du sol, elle est, je crois, fondamentale, parce qu'on a parlé du bon sens il y a un instant. Bah, c'est le bon sens démocratique face à un état de droit complexe, lointain, qu'il s'agit de contourner.
Oui, sur la démocratie, la légitimité de Donald Trump est incontestable.
Est-elle sans limite ?
La légitimité, elle est incontestable au sens où non seulement il a eu une majorité des grands électeurs, mais en plus une majorité populaire, une majorité au Congrès. La légalité des actes, c'est ça dont il va être question de cette avalanche de décrets et de ceux qui vont suivre. Et là, on voit que son pouvoir n'est pas sans limite, surtout dans un pays comme les États-Unis, dans lequel les États conservent un poids important, dans lequel le Congrès est un vrai Congrès, même s'il est républicain, et où la Cour suprême, évidemment, dont maintenant une majorité est favorable à Donald Trump, mais aura quand même son mot à dire. Ce qui est sûr, c'est que on voit là l'attaque contre, pas seulement contre la démocratie, mais contre une forme de démocratie qui s'incarnait d'abord aux États-Unis, qui est la démocratie libérale. Et puis sur l'autre point, sur cet imaginaire du progrès, le discours d'Elon Musk, etc. Ce discours performatif, pour reprendre la formule de Natacha, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est le côté utopie ou dystopie, mais de... C'est la formule de Nietzsche. L'utopie, c'est on coupe l'histoire en deux. Et cette idée que aujourd'hui, par la seule grâce de son élection, de sa présence, de son verbe, quelque chose déjà s'est accompli, c'est exactement ça.
Défilancé autant, défilancé aux Américains, à l'état de droit, défilancé aux Européens, c'est le deuxième thème du duel.
Le grand face-à-face, le duel.
Notre première priorité sera de nous engager rapidement, de discuter des intérêts communs et d'être prêts à négocier. Nous serons pragmatiques, mais nous nous en tiendrons toujours à nos principes. Protéger nos intérêts et défendre nos valeurs, telle est la voie européenne.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, c'était cette semaine, lors de l'inauguration du forum de Davos. Le pragmatisme, mais aussi, on l'a pas entendu ici, le fait d'approfondir des relations commerciales avec la Chine, en réponse aux défis lancés par Donald Trump, notamment sur le domaine commercial. Natacha, est-ce que la réponse de l'Europe vous semble à la hauteur du défi lancé par le président américain ?
Pour reprendre une expression désormais célèbre, on est frappé par les pudeurs de gazelle d'Ursula von der Leyen. Pudeur qu'on a déjà pu remarquer face aux ingérences d'Elon Musk, alors même qu'elle avait prononcé un discours tonitruant contre TikTok lors des ingérences dans la campagne en Roumanie. Bref, il y a là une gêne évidente. Mais surtout, il y a une hypocrisie profonde. Pourquoi ? Donald Trump, dans son discours d'investiture, a pointé ce qui est une obsession pour lui, le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Ce déficit commercial, c'est, si on le calcule sur 25 ans, il s'élève à 2000 milliards. C'est vrai que ça fait beaucoup. En effet, l'Europe vend beaucoup aux États-Unis. Mais la question est de savoir qui en Europe vend beaucoup aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que ce que ne dit pas le discours d'Ursula von der Leyen, c'est que les Européens, et c'est bien le problème, ont sur cette question-là des intérêts qui sont parfois divergents. En effet, il y a en Europe des pays qui ont un modèle mercantiliste, l'Allemagne en premier lieu, qui a fondé toute sa puissance sur ses exportations vers la Chine et les États-Unis, en s'appuyant sur une énergie peu chère, le gaz russe. Ce qui n'était pas un modèle extrêmement malin, parce que c'est un modèle fait de dépendance. Et c'est ça que l'Allemagne veut à tout prix sauver. Et pour sauver cela, il faut absolument éviter la guerre commerciale. Et on a entendu en début de semaine Stéphane Séjourné, commissaire européen, commissaire français, mais à la Commission européenne, expliquer qu'il fallait donc tout faire pour empêcher une guerre commerciale, un relèvement des droits de douane, et que donc il fallait dealer, faire des concessions.
Christine Lagarde avait dit la même chose aussi, présidente de la BCE, à la fin du mois de novembre.
Dans le Financial Times, elle avait expliqué, en gros, qu'il fallait que... qu'on achète du gaz et des armes aux Américains.
Pour continuer à leur vendre des voitures.
Voilà. Ça signifie quoi ? Ça signifie que, par exemple, l'industrie de défense, qui est un des points forts de la France, va potentiellement être sacrifiée pour éviter que l'Allemagne ne puisse plus vendre ses Mercedes et ses BMW. Bref, il va falloir mettre en place un rapport de force au sein de l'Union européenne, notamment que la France défende ses intérêts. Pourquoi ? Parce que ça fera du bien à l'ensemble de l'Union européenne, de sortir du modèle allemand qui est un modèle de dépendance totale.
Gilles, est-ce que, dans ce que vient de dire Natacha, qui est une charge contre la Commission européenne, est-ce que finalement, le défi que nous lance Donald Trump, c'est finalement le défi historique de l'unité, de la convergence des intérêts européens face à un adversaire commercial très très véhément ?
Oui, mais c'est pas le premier à lancer ce défi. Nous sommes maintenant depuis plusieurs années dans ce défi-là. Charge de Natacha, je dois dire que l'absence de l'Europe, même la double absence de l'Europe dans la semaine a été frappante. Absence dans le discours de Donald Trump.
Ouais, il parle d'Europe. Quand il en parle, il parle de petite Chine pour parler de l'Europe, ce qui est pas très sympathique.
Donc absence de l'Europe dans le discours de Donald Trump et absence de réaction de l'Union européenne à toute cette séquence. Alors, on pourrait s'en réjouir, dit nous sommes épargnés. On peut s'offusquer, on est ignoré, mais il fallait être lucide, ça allait venir. Et c'est venu dès le lendemain. L'UE est très mauvaise pour nous, a dit Donald Trump. La situation me semble ouverte quand on regarde la réaction. Évidemment, on voit toutes les tentations de la faiblesse. Et elles sont colossales. Il y a celle qu'a évoquée Natacha, l'intérêt mercantile de certains États membres, le réflexe atlantiste d'Ursula von der Leyen, auquel on peut ajouter la proximité idéologique de Meloni et d'Orban, la tétanie sécuritaire des pays pour lesquels les plus proches de la Russie et pour lesquels l'OTAN, ce n'est que les États-Unis. Donc on voit tout ça. Donc on voit le risque, Gilles Gresciani, le directeur du Grand Continent, a eu une très bonne formule, le risque d'une vassalisation heureuse. Mais il y a aussi, quand on regarde le passé, y compris le passé récent, on voit la capacité de rebond de l'Union européenne au pied du mur. On l'a vu à plusieurs reprises ces toutes dernières années, entre la mutualisation pour l'achat des vaccins pendant le Covid, le plan de relance avec le lancement d'une dette commune, les réactions à l'invasion russe. Donc, c'est ouvert. Les dilemmes... Est-ce qu'on est ensemble ou est-ce qu'on est groupé ? La tentation, évidemment, d'essayer chacun de sauver sa peau tout seul me semble totalement illusoire. Et vous avez peut-être remarqué cette semaine la formule que Donald Trump a utilisée contre l'un de ceux qui pourrait être un de ses alliés, contre Javier Milei, « fucking idiot ». Ça devrait mettre la puce à l'oreille de ceux qui pensent qu'ils peuvent, en raison de leur proximité, obtenir des choses de Donald Trump. Reste la question, le dilemme coopération ou affrontement. Pragmatisme, dit Ursula von der Leyen, éviter la guerre commerciale. Évidemment que si on peut éviter la guerre commerciale, il faut éviter la guerre commerciale. C'est dans l'équilibre entre coopération et affrontement que les choses vont se jouer. Si on prend l'exemple de l'effort de défense qu'a évoqué Natacha, on peut décider d'augmenter nos budgets de défense. C'est une demande des États-Unis, mais ça peut être considéré comme l'intérêt de l'Union européenne. On ne doit pas accepter, en revanche, que cet effort soit nécessairement par l'achat d'armes américaines. Il peut l'être quand il n'y a pas d'autre option, mais c'est exactement ça, la vassalisation heureuse. Et la dernière leçon d'un mot, je crois que l'Europe doit tirer de ce qui se passe, c'est qu'elle doit investir, investir, investir. C'est pas drill, drill, drill. Ouais. C'est investir, investir, investir dans l'innovation, dans le changement climatique, dans la défense. Parce que si elle est dans une situation de vassalisation possible, c'est parce qu'elle manque de puissance.
C'est un peu le plan Draghi.
C'est exactement le plan Draghi.
Ouais. C'est exactement le plan Draghi. À ceci près que le plan Draghi, que tout le monde a trouvé formidable, visiblement n'est pas appliqué. Et sur la question des armes, par exemple, 50% des armes achetées à l'étranger par l'Union européenne le sont aux États-Unis, et surtout toute une part des États membres, mais surtout la Commission, refuse de flécher vers des achats européens. Et j'en viens à mon propos en un mot. L'Union européenne doit garantir petit à petit, sans violence, son indépendance, et ça passe par le retour à ce qui faisait le fondement de l'Union européenne, à savoir la préférence communautaire. Mmh. C'est comme ça qu'on évitera d'être soumis et vassalisé, et c'est ça qui visiblement manque à Ursula von der Leyen et à d'autres en Europe, c'est la conscience que l'Union européenne trouvera sa liberté dans l'indépendance.
Le grand face-à-face, le duel.
Enfin, troisième sujet du duel, on retourne en France, les retraites, le fameux conclave dont doit sortir la réforme de la réforme. Conclave voulu par le Premier ministre, s'il a lieu, c'est dans à peu près un mois, le 19 février, mais cette semaine déjà, on a beaucoup parlé retraite et contribution des retraités à l'effort national.
Ça peut porter aussi sur les personnes retraitées qui peuvent se le permettre. C'est une forme de contribution à l'effort national du financement pour, encore une fois, la dépendance et la branche autonomie.
Quel montant de pension ?
Ben, ça peut être... Ça c'est 2000 euros. À discuter. Ça peut être 2 000 euros, ça peut être 2 500.
Astrid Panossian-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l'Emploi, mardi sur TF1, elle évoquait, on l'a entendu, la piste d'une contribution de certains retraités plus riches au financement de la protection sociale. Mais depuis, le ministre de l'Économie, Éric Lombard, a réfuté cette thèse. Natacha, quelle cacophonie.
Alors, la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, dit qu'elle préfère parler de polyphonie. C'est vrai que c'est beaucoup plus beau.
C'est plus joli, surtout en Corse.
C'est plus joli. Non, alors, il y a quelque chose d'intéressant sur la méthode. L'idée qu'on laisse s'exprimer tout le monde, ça permet d'ouvrir le champ des possibles sans rien faire derrière, puisque ce sont des ballons d'essai que l'on lance, et derrière, évidemment, un autre membre du gouvernement vient éteindre tout ça. Ça peut fâcher, hein, ça peut fâcher différents groupes, mais au moins ça donne l'illusion de l'action. C'est plutôt pas mal. En l'occurrence, sur ce débat-là, c'est assez intéressant, ce genre de ballon d'essai, parce que de fait, le débat monte. Et quand on entend les réactions, on est toujours frappé, puisqu'évidemment, levée de bouclier immédiate de l'ensemble des oppositions. C'est surtout cela qui est très frappant, c'est que sur ce sujet-là, il y a une forme d'unanimité d'un bout à l'autre du spectre politique. Ça mériterait qu'on s'interroge sur le rôle, sur le sens de cette unanimité. Et surtout, cette séquence nous démontre, par les réactions même des Français, que peu de Français, en fait, ont bien conscience de la nature du système de retraite que nous avons par répartition. J'entendais des micro-trottoirs et une personne qui disait « Mais enfin, j'ai cotisé toute ma vie, c'est pas pour que ça profite à d'autres ». Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la retraite par répartition. Et les retraités actuels ont un taux de remplacement qui est bien plus important que celui qu'auront les actifs actuels. Donc il faudrait remettre à plat tout cela, en discuter calmement. Est-ce possible ? J'ai un énorme doute.
Est-ce que c'est possible, Gilles, au sein du conclave, dont sortira peut-être une fumée blanche ? Parce qu'on est vraiment dans un vocabulaire religieux.
Alors, d'abord, l'existence même de ce conclave est une victoire symbolique dont on a sous-estimé, je crois, l'importance, à la fois sur la méthode, ça remet les partenaires sociaux au centre, là où ils avaient été laissés aux marges, et sur le contenu, on passe du « tout est négociable sauf l'essentiel », c'est-à-dire les 64 ans, à « tout est négociable sauf l'équilibre du régime ». Et donc ça, l'existence même de ce conclave sur ces bases-là est quelque chose d'important.
On négocie, ouais, ça a le but ou les moyens, quoi.
Je disais tout à l'heure, en parlant des réactions de l'Union européenne, que l'issue me semblait ouverte. Eh bien, là aussi, l'issue du conclave me semble ouverte. J'essaie d'être optimiste et positif en ce début d'année. Je n'ignore pas les difficultés, parce qu'elles sont très nombreuses. Le calendrier est court. Le rapport de force, On peut dire qu'il est défavorable au sens où si le MEDEF décide de ne pas rentrer vraiment dans la discussion, eh bien c'est la loi actuelle qui s'applique, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Mais je crois qu'il y a des espoirs qui sont permis parce que l'intérêt de l'ensemble des partenaires sociaux et notamment de ceux qui jouent le jeu de la politique contractuelle, c'est de montrer que la démocratie sociale fonctionne au moment où la démocratie politique tâtonne. Leur intérêt, c'est... Ils l'ont fait d'ailleurs, ils l'ont fait il y a peu de temps sur l'assurance chômage. L'intérêt, y compris du MEDEF, c'est de donner de la stabilité pour les entreprises et donc d'essayer de redonner un peu de stabilité au pays. Et donc, je pense qu'on peut avoir d'abord l'espoir d'un constat partagé, puisque ce qu'a dit le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale était très décalé, et donc on va voir ce que le rapport de la Cour des comptes va dire. On peut avoir un espoir d'accord partiel sur des questions dont on a beaucoup parlé pendant le conflit sur les retraites, que ce soit la pénibilité ou l'égalité homme-femme, et peut-être même un espoir d'avancée globale, parce que le MEDEF est opposé à l'alourdissement du coût du travail, mais il n'est pas nécessairement opposé à une autre répartition des charges, ce qui amène exactement au débat qui a été lancé par Astrid Panosyan. Je trouve qu'elle a été courageuse, parce que c'est vraiment un débat tabou, que c'est évidemment un débat qui est difficile, parce qu'il y a l'illusion dans le débat public depuis des années d'une unité des retraités. C'est la seule catégorie aurait exactement les mêmes intérêts.
Il y a plus de classe sociale.
Alors que il y a évidemment des différences qui sont des différences très importantes. Et donc, c'est un débat utile et il va falloir le poursuivre.
Et qu'on va sûrement évoquer avec notre invité, parce que voilà qui renvoie à un âge d'or où les retraites étaient financées, où les gens étaient peut-être plus heureux au travail. Juste un mot, au Vatican, les conclaves s'achèvent toujours par des surprises. Donc on va suivre ça avec grand intérêt. Place au débat du Grand Face à Face.
France Inter, le Grand Face à Face, le débat.
Bonjour Vincent Martini.
Bonjour.
Vous êtes politiste, professeur à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique. Et vous publiez ces jours-ci un livre que vous dirigez, un livre de bande. Il s'appelle « Les temps nouveaux », sous-titre « En finir avec la nostalgie des 30 Glorieuses ». Une couverture très colorée. Les 30 Glorieuses, ce sont ces 30 années de modernisation, de forte croissance économique et démographique et de réduction des inégalités. On comprend qu'elles soient l'objet d'une forme de nostalgie, en témoigne le dernier roman de Pierre Lemaître, Un avenir radieux, aux éditions Calman Lévy. Le romancier pris Goncourt était l'invité d'Ali Badou la semaine dernière.
En 59, en 60, dans ces Trente Glorieuses, on vit l'instant présent et on n'a pas du tout l'idée que cette période, qui est une période assez enchantée, le capitalisme va bien, le niveau de vie des Français globalement s'élève, le chômage est quasiment inconnu, voyez, un chômeur c'est un clochard, voyez, à l'époque. Hein, bon. Donc tout ça pour dire, cette période-là des Trente Glorieuses, c'est une période dans laquelle il y a une espèce de... Alors c'est l'expression à la tarte à la crème en ce moment, la parenthèse enchantée. Enfin, oui. C'est vrai que c'est une longue parenthèse d'une trentaine d'années qui fait qu'on a l'impression de vivre un bonheur qui va durer.
Vincent Martini, je vous ai vu réagir, vous partagez ces propos de Pierre Lemaître qui nous permettent de comprendre, avant de voir pourquoi il faut s'en séparer, l'attachement viscéral de notre classe politique et même de nos concitoyens envers cette période dite de parenthèse enchantée.
Moi, je le mettrais même dans l'autre sens, l'attachement des citoyens, et c'est tout à fait naturel parce que c'est une période qui a vu, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des millions et des millions d'individus, non seulement en France, mais il y a des équivalents des Trente Glorieuses dans d'autres pays d'Europe et du monde, sortir de la misère, pouvoir accéder à un niveau d'éducation important et sortir des grandes souffrances de l'humanité, justement la souffrance elle-même, la généralisation des antalgiques, une médecine qui traite un certain nombre de gens, et puis le sentiment d'une vie non seulement prospère, mais qui était porteuse d'un futur. Et ça, c'est une dimension importante dans le livre, dont parle mon camarade Étienne Klein, qui a fait un livre sur un chapitre, pardon, qui s'appelle « Le futur n'est plus ce qu'il était ». Justement, il rappelle comment, dans les Trente Glorieuses, il y a aussi une vision de ce qui nous emmène vers un futur qui était à l'époque l'an 2000. L'an 2000, on irait peut-être passer des week-ends sur la Lune, ou en tout cas, la vie serait encore plus heureuse. On assiste aujourd'hui à une crise du futur, évidemment, qui est aussi une crise du récit. Natacha Polony en parlait tout à l'heure lorsqu'elle parlait de Donald Trump. Donald Trump, il a restaurer un récit, et ce récit, c'est un récit du rétroviseur. Il dit, voilà, ce qui a été, sera. Et bien, précisément, ce livre que nous avons coordonné et que toute une bande dont vous avez parlé, que j'espère qu'on aura l'occasion de les évoquer, eh bien, on va essayer de dire, on peut inventer un récit qui n'est pas seulement ce qui a été.
Pourquoi c'est si puissant aujourd'hui ce récit d'un passé glorieux, incarné effectivement par Donald Trump, mais par énormément de figures de notre classe politique également en France. Pourquoi aujourd'hui c'est si puissant? Et est-ce que c'est aujourd'hui en particulier, ou bien, si on fait un peu l'histoire de la nostalgie des Trente Glorieuses, elle a toujours été présente?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, me semble-t-il, c'est parce que cette nostalgie touche toutes les classes sociales, toutes les classes d'âge. Aussi parce que la nostalgie pour une période d'âge d'or, elle a toujours existé. Il suffit de regarder la littérature ou même l'histoire pour savoir que la Belle Époque a pu inspirer une certaine forme de nostalgie à un très grand nombre de personnes. Mais à l'époque, c'était plutôt la nostalgie réservée soit aux intellectuels, aux artistes, soit aux classes aisées, à la bourgeoisie qui rêvait de ce monde avant la Première Guerre mondiale, par exemple, où elle a été dominante, où la France, etc., avait un poids considérable. La différence avec les Trente Glorieuses, c'est comme c'est une période de progrès qui a touché le cœur de la population française, pas tout le monde, mais en tout cas le cœur de la population française, il est tout à fait naturel, d'abord, que par son étendue, elle puisse, par capillarité et puis par ruissellement, si je peux me permettre l'expression, toucher toute une partie de la population importante aujourd'hui. Deuxième raison, très importante me semble-t-il, j'aurais voulu même encore la développer encore plus dans le livre, c'est que les Trente Glorieuses ont généré des images fixes, des images animées, des films. Et ces films fonctionnent un peu aujourd'hui parce qu'ils sont en permanence rediffusés comme une radio nostalgie dans laquelle nous sommes tous titulaires. Moi, qui suis né à la fin des Trente Glorieuses, je n'ai pas connu vraiment cette période. Et la plupart des auteurs de mon livre, une bonne majorité, ne l'ont pas connu non plus. Il y a quelques jeunes, Raphaël Lorca qui a 30 ans, donc il est vraiment notre Benjamin. Même si nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Michel Perrault qui avait 16 ans lorsque les Trente Glorieuses ont commencé. Donc elle a bien connu cette période. Eh bien, ces images, qui nous sont transmises par les films du dimanche soir, à la télévision, par toute une série de moments ou de répétitions. Parfois, on reproduit ces images dans des films contemporains qui rappellent les Trente Glorieuses. Je pense à L'Amour Ouf, qui a connu un grand succès et qui reproduit, encore une fois, de manière inconsciente, cette espèce de nostalgie. Bien, elle explique aussi pourquoi cette nostalgie est si répandue.
Dernière question avant de poser, avant de donner la parole à Gilles et Natacha, mais... les Trente Glorieuses, ok, on comprend que c'est l'objet d'une mythification, mais si on rentre dans la machine des Trente Glorieuses, est-ce que le récit qu'on doit en faire, au-delà de ce qu'on va voir ensemble après, le nouveau récit qu'on doit proposer, est-ce qu'on doit aussi déconstruire le récit des Trente Glorieuses ?
Alors, il nous a semblé que c'était indispensable. Moi, les consignes que j'avais données à mes auteurs, lorsque je suis allé les voir et que j'ai réuni cette bande, justement, de gens que j'estimais, parfois que j'admirais, et donc je pensais qu'ils avaient tous les moyens de pouvoir traiter dans leur domaine 14 domaines différents, différents aspects des Trente Glorieuses, je leur disais, il faut d'abord nous expliquer en quoi, quand même, les Trente Glorieuses, c'est pas non plus la totale panacée, c'est pas justement l'âge d'or dont on parle. Évidemment, il y a plein de choses qui ont été positives, très importantes dans les Trente Glorieuses, que ça soit dans l'avancée des droits des femmes, que ça soit dans la société de consommation, dans la croissance, dans toute une série de sujets, mais il y a aussi des quelques apories. Si vous observez, par exemple, le texte de François Gémen sur l'écologie, vous rendez compte que c'était pas trop ça. Quand vous observez d'ailleurs de près la question de la sexualité, comme le fait Maya Mazorette, Maya, elle ose dire que finalement, peut-être que la révolution sexuelle n'a pas eu lieu en 68, qu'elle a lieu aujourd'hui. Mmh. Là, c'est intéressant parce que ça nous projette vers maintenant. Et donc, les textes, vous remarquerez, sont toujours un peu fondés sur le même mouvement, qui est de dire, regardons ce qui s'est joué, de positif, mais aussi de négatif. Il y a eu des exclus de la grande prospérité. C'était un monde dans lequel, finalement, on invisibilisait toute une série de gens. Et que les récits de droite comme de gauche sur les Trente Glorieuses, parce qu'il y en a pour tout le monde, sont des récits qui n'étaient pas parfaits, qui, encore une fois, n'étaient pas à ne pas déconstruire. Et puis, il y a une deuxième partie, dont on parlera, j'imagine, tout à l'heure, qui est qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Les Trente Glorieuses ne l'étaient pas pour tous. Natacha.
Oui, ce livre ouvre énormément de portes et c'est assez passionnant parce qu'il nous montre à quel point, en effet, les Trente Glorieuses ont construit le monde dans lequel nous sommes, ont préparé les avancées que nous avons pu connaître par la suite, mais ont forgé un modèle dont il est très difficile de sortir, alors même que nous nous apercevons que c'est un modèle qui nous emmène dans le mur, du point de vue notamment et essentiellement du bouleversement climatique. Ce qui m'a frappé, j'ai été très intéressée par exemple par le chapitre de Raphaël Lorca, puisqu'il pointe, me semble-t-il, un élément absolument essentiel, c'est-à-dire la dimension identitaire de la consommation qui se fait jour à ce moment-là et qui, je pense, explique l'incapacité que nous avons à sortir de ce modèle puisqu'il a fixé une façon d'être heureux. En fait, une idée du bonheur. Et c'est sans doute cela qu'il faut réinventer. C'est d'ailleurs évoqué par certains auteurs, une autre forme de bonheur. Pour autant, il me semble qu'il y a différents éléments, justement. J'ai été très frappée, par exemple, par l'absence totale d'un élément qui me semble, à moi, fondamental dans cette construction de l'imaginaire. C'est la télévision. C'est-à-dire que ce qui arrive à ce moment-là, dans les foyers, c'est la télévision, c'est-à-dire un élément qui sort les Français de l'imaginaire qui était le leur. Est-ce que cette dimension, qui est le début de la globalisation culturelle, le début à la fois d'une ouverture formidable et en même temps d'un outil d'affirmation de la consommation, parce que c'est par la publicité que la consommation est rendue possible, c'est pas justement ce qui fait que nous avons la nostalgie des Trente Glorieuses, parce que c'était un monde où la France, et là, l'expression revient dans le livre, la France était encore la France, puisque se perpétuait une transmission, et qu'en même temps, c'est le moment où cette transmission est rompue par la globalisation culturelle.
Oui. Vincent Martini.
Vous avez sûrement raison, évidemment. Alors, il y a toujours... moi, ce que je souhaite, c'est qu'on dise en permanence « il manque tel terme ».
Oui, oui,
le but est une invitation, évidemment, à ouvrir. Mais sur la télévision, vous avez raison, parce que...
de l'identité française.
En tout cas, sur la question des images, c'était un sujet sur lequel j'ai, pour tout vous dire, beaucoup cherché un auteur ou une autrice. Parce que c'était vraiment... pour moi, c'est presque le chapitre manquant, parce que... en tout cas, celui auquel j'étais très attaché, j'ai pas réussi à trouver. J'ai proposé une série de personnes qui étaient soit pas disponibles, soit pas forcément convaincues ou se sentaient pas capables de le faire. Mais vous avait parfaitement raison. Je pense que la génération à talent d'images, le lien entre justement ces images animées qui rentrent dans les foyers, l'idéal de consommation, proposait une certaine vision du bonheur. Et c'est probablement sur ça qu'on veut réfléchir, parce que il me semble qu'aujourd'hui, une sorte de lamentation dans laquelle nous vivons de cette période, alors cette parenthèse enchantée dont parle Pierre Lemaitre, elle nous cause du tort. Elle ne nous aide pas à vivre, elle ne nous réconforte pas en réalité. Parce que parfois, la nostalgie individuelle, on peut être heureux de penser à sa jeunesse. Hein. Ça, moi, je ne suis pas contre la nostalgie lorsqu'il s'agit de réfléchir à ses osies ont perdu les siennes, ou à sa jeunesse quand elle était heureuse, et je le souhaite à part des gens qui nous écoutent. Le problème de la nostalgie, c'est quand elle se mue en récit politique, et qu'elle dit, bah voilà, c'est ça, c'est un programme de gouvernement, parce qu'on sait très bien que le récit, il précède la mise en politique. Et moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse au récit politique, évidemment. Je suis vous l'avez rappelé, politiste. Je m'intéresse au phénomène politique. Et à ce titre-là, c'est pour ça qu'il me semble que la nostalgie des Trente Glorieuses, elle est dangereuse. Elle est dangereuse et elle est généreuse d'une identité qui, à mon avis, une identité avec une dimension morbide très forte.
Elle est dangereuse, mais elle rappelle aussi, et ça, on est en plein dans l'actu d'aujourd'hui, un temps où le politique avait la main. Moi, j'enseignais à mes élèves que pendant les Trente Glorieuses, il y a le stop and go. Quand il y a trop de croissance, on stoppe un peu, on fait un peu d'inflation, ça crée de l'inflation. Enfin, ça crée de l'inflation quand il y a de la croissance. On ralentit un peu, ça baisse l'inflation, ça ralentit la croissance. Hop, on relance la croissance. Bref, on a la main.
Oui, on avait la main dans le domaine économique, mais enfin, vous savez, moi, je combat en permanence deux idées. La première, ce serait que la politique ne peut rien faire. La deuxième, ce serait que la politique peut tout. Je pense que la politique n'a jamais pu tout faire. Il y avait plein de choses qui échappaient. Heureusement, et c'est le but de ce livre, c'est aussi de parler de la société. C'est la société qui travaille, hein. La société. Et là, je voudrais insister là-dessus. Je suis pas en train de faire un livre critique sur les Trente Glorieuses. On a fait un livre, positif, un livre pour dire qu'il y a des choses qui bougent, que la société, elle travaille. Et c'est ça que je voudrais qu'on retienne de ce livre. La société, elle est en travail. Les deux révolutions dont on parle dans le livre est organisé autour de quatre parties. Une partie sur ce qu'on appelle la révolution en cours, celle des rapports entre les hommes et les femmes sous différents angles, la famille, la sexualité, les droits des femmes, mais aussi ce que l'on appelle les illusions perdues, la transition environnementale, la réflexion sur la consommation, la réflexion sur la croissance. Mais la société, elle travaille énormément sur ces sujets. Et elle entraîne d'ailleurs des changements d'image de la France et c'est la politique qui doit s'emparer de ces ferments-là. C'est là où le récit intervient. C'est qu'il me manque, il me semble qu'il y a un chaînon manquant entre, d'un côté, la production d'un travail de la société, et de l'autre, l'action politique. Il manque ce chaînon manquant qui est le récit. Et c'est ça qu'on essaie de réfléchir.
Gilles.
Alors, c'est précisément là-dessus, ça tombe bien, que je voulais vous interroger, puisque Natacha pointe un chapitre manquant. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un mot qui est omniprésent, qui est le mot d'imaginaire. Souvent, un livre collectif, on perd en cohérence qu'on gagne en diversité. Eh bien, là, il y a cette cohérence là, et c'est ce mot, cette présence du mot imaginaire est d'autant plus frappante qu'elle vient sous la plume de beaucoup d'auteurs sur des sujets différents. L'imaginaire d'une politique de la nouvelle famille est à inventer, Claire Allais. Se défier d'une architecture mentale qui lie consommation à identité et liberté, Raphaël Liorca. Changer nos représentations, nos cadres cognitifs dans le rapport à la croissance, Dominique Méda. Refonder un imaginaire politique du travail, Laurent Berger. Et vous-même, derrière le dysfonctionnement actuel de notre système politique, les ressorts d'un imaginaire problématique. J'en cite quelques-uns, j'aurais même pu en citer d'autres, c'est à peu près partout.
C'est une espèce de mot valise. Comment vous le définissez? Et surtout, quelle est la relation entre l'imaginaire et le réel? Est-ce que le réel précède l'imaginaire? On le voit sur certains sujets. Est-ce que l'imaginaire permet au réel d'éclore? Bref, comment ça fonctionne?
Est-ce qu'on peut imposer un imaginaire? Vincent Martini.
On ne peut pas imposer un imaginaire parce que l'imaginaire, il est en germe partout dans la société. Enfin, les imaginaires dont on parle, on ne dit pas qu'ils n'existent pas. En réalité, probablement, le mot imaginaire, chez nous, est corollaire du terme de récit. C'est-à-dire comment un imaginaire qui est en suspens, est fixé, pour en faire une histoire qui nous traverse. Parce que moi, ce qui me frappe, et qui m'a toujours frappé depuis que je travaille sur la question politique, c'est à quel point nous sommes traversés par des récits. Je me suis beaucoup intéressé dans un autre livre au lien entre pop culture et politique. Et comment, justement, la pop culture nourrissait la politique. Il me semble, par exemple, qu'une des ressorts sous-estimés de la popularité de Donald Trump aux États-Unis, c'est qu'il est divertissant. Oui. Il nous raconte un récit qui nous amuse. Et c'est beaucoup plus amusant de regarder Donald Trump, si on ne réfléchit pas aux conséquences de ce qu'il dit, et que de regarder Joe Biden, par exemple. Beaucoup plus amusant. Et à ce titre-là, quand on parle d'imaginaire, en l'été, c'est une manière de dire que nous devons inventer de nouveaux récits, c'est-à-dire de nouvelles façons de vivre ensemble et de raconter la manière dont nous vivons ensemble. Je vous donne un exemple précis. Laurent Berger, on a beaucoup discuté dans son chapitre, il fait une contribution sur le travail, donc qui s'appelle Travail, mode d'emploi. On a beaucoup réfléchi ensemble et sur l'imaginaire de la guerre civile. Vous savez, cette théorie qui a été popularisée par mon camarade Jérôme Fourquet, il dit pas exactement ça, mais dans l'archipélisation, il dit voilà, il y a quand même les Français donc sont tellement divisés que presque une allumette peut enflammer l'ensemble. Il y a eu cette série d'Éric Benzekri, oui. Qui se fondait complètement sur cette idée-là. Et Laurent Berger, et je partage son point de vue, disait en fait qu'il n'était pas en accord avec cette idée-là. Il le dit d'ailleurs dans son chapitre. En réalité, il pense que les Français, au contraire, n'attendent qu'une occasion d'être ensemble. Ils ont une occasion de coopérer. Et lorsque vous observez, par exemple, la vie des associations, ce qu'on appelle en sciences politiques le capital social, c'est-à-dire la façon dont les gens créent des réseaux horizontaux, souhaitent coopérer ensemble dans un but commun. On l'a vu évidemment aux Jeux Olympiques, le sport, c'est le récit qui unit, mais c'est pas le seul, me semble-t-il. Vous trouvez dans la société en germe toute une série d'imaginaires et de pratiques réelles de la coopération. Sauf que
ce qui est aussi d'ailleurs dans la fièvre comme réponse à la guerre.
Ce qui est évidemment
avec
dans la fièvre, coopérative. Avec la coopérative autour du club de foot, dans la fièvre. Mais ce qui me frappe moins, c'est que c'est comme si cette réalité, ces imaginaires qui existent dans la société, ces initiatives par ailleurs concrètes qui existent dans la société, elles ne passent pas la barre de l'espace médiatico-politique.
Mais quand je vous écoute, je suis persuadé qu'il y a des gens qui se disent mais c'était comme ça pendant les 30 Glorieuses. Pourquoi ne pas réinvestir l'imaginaire des 30 Glorieuses précisément?
Alors, on aurait pu appeler ce livre totalement différemment. Moi, ce livre, j'ai eu une espèce de flash. Après, quand on commence à en parler, on a d'autres idées. Je me dis, ça aurait pu s'appeler la promesse du présent. C'est-à-dire, le présent est porteur de promesses. Encore une fois, le but n'est pas de dire les 30 Glorieuses, c'est horrible, il faut surtout pas que ça revienne. Moi, si on était capable d'inventer un imaginaire aussi puissant que les 30 Glorieuses, mais qui ne soit pas celui-là, qui soit tout simplement un imaginaire qui corresponde à l'époque dans laquelle nous nous trouvons, et qu'au lieu de voir cette période comme une crise permanente, ce qui m'en semble pas totalement faux, mais absolument pas totalement vrai, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui nous arrivent, qui sont des choses positives, qui sont des choses, qui sont des transformations sur lesquelles, mais pour rien au monde, je souhaiterais revenir il y a 50 ans. Moi, je pense que la période que nous vivons, elle est porteuse, évidemment, d'inquiétude, mais cette inquiétude, on pourrait, en exagérant un peu, dire, comme Fernand Braudel, qu'elle touche la crête de l'écume des vagues, c'est vraiment ce qu'on voit, les événements, les personnages. Et encore une fois, je ne veux pas minimiser ce qui nous arrive. Mais c'est de dire que, en dessous du niveau de la mer, il y a des grands mouvements, et ces grands mouvements dans les rapports entre les hommes et les femmes, dans la façon dont nous progressons, sur la compréhension que nous devons inventer un autre modèle, sur la transition environnementale, dont il faudra encore dire en quoi elle fournira une société qui va être une société aussi de progrès, une société qui nous fera du bien, où on vivra mieux. À mon avis, c'est ça qui manque, c'est le grand récit qui nous manque. Eh bien, tout ça aussi aidera nos politiques, probablement, à inventer des politiques nouvelles. Donc, en fait, tant qu'on n'a pas ce chaînon manquant, entre d'un côté, ces imaginaires en suspens dans la société, et de l'autre, une action politique, on sera pris dans une espèce d'impasse.
Natacha.
Je vais vous dire, moi non plus, pour rien au monde, je n'aurais envie de revenir 50 ans en arrière. Pour autant, je trouve qu'il affleure tout de même, dans beaucoup des contributions de ce livre, cette espèce d'obsession de dire non, surtout ce n'était pas mieux avant. Comme si ça posait un problème, ne serait-ce que parce que, pour ma part, je pense que cette expression « c'était mieux avant » ou « ce n'était pas mieux avant » ne vaut rien, puisqu'il y a des domaines où c'était mieux avant et d'autres où ça ne l'était pas. Et que, du coup, ne serait-ce que sur les rapports hommes-femmes. Il y a cette idée, pas du tout, les Trente Glorieuses n'ont pas amené grand-chose, c'est aujourd'hui que c'est formidable, etc. Il y manque tout de même un élément qui est un élément très précis et factuel. Moulinex libère la femme. C'est-à-dire que c'est parce que dans les Trente Glorieuses, il y a eu des avancées techniques et ensuite de consommation que les femmes ensuite ont pu gagner en autonomie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'il y a un élément sur lequel les Trente Glorieuses étaient un moment favorable et qui explique qu'il y ait réellement une nostalgie tout à fait légitime. Ça transparaît dans l'intervention de Laurent Berger quand il explique que le taux de rattrapage, c'est-à-dire la capacité d'un ouvrier à devenir, à passer cadre, était de 30 ans à l'époque et de 220 ans aujourd'hui. Les Trente Glorieuses, elles sont encadrées par la Seconde Guerre mondiale avec la libération et ce rêve de ne plus jamais rééditer les erreurs d'avant. Et les erreurs d'avant, c'était le capitalisme débridé, c'était les inégalités, donc les frustrations, etc. Et le néolibéralisme, la vague néolibérale, c'est elle qui met fin aux Trente Glorieuses et qui renverse les rapports entre le capital et le travail. C'est aussi évoqué à un autre moment quand il est dit, mais en fait, il existait la menace du communisme et de l'Est qui a obligé les capitalistes, les patrons, à lâcher quelque chose et à transiger. Est-ce que finalement le cœur du problème n'est pas là? C'est-à-dire qu'on a des raisons de regretter cette période-là. C'est le fait que les rapports économiques sont beaucoup plus violents aujourd'hui et que donc l'imaginaire que vous voulez recréer, il passe aussi par là.
Alors, vous avez parfaitement raison, mais réponse en deux temps. Si vous observez la contribution de Michel Perrault sur les droits des femmes, elle montre quand même très bien à quel point les Trente Glorieuses sont une période d'avancée tout à fait extraordinaire. Et elle parle d'ailleurs, elle dit pas peut-être Moulinex libère la femme, elle raconte comment justement la libération des contraintes matérielles est une véritable libération. Sur les questions économiques, évidemment vous avez parfaitement raison, mais pour moi, l'économie et justement cette question de confiance ou d'imaginaire, elles ont quand même maille à partir. C'est-à-dire qu'on sait très bien en économie que la confiance, c'est la clé. N'importe quel investisseur vous dira, s'il n'y a pas de confiance, on ne peut rien faire. Et j'ai l'impression qu'on a trop souvent fait de l'économie un espace totalement séparé de la politique. Alors, pas vous, évidemment, quand vous dites que le néolibéralisme a mis fin justement à cette capacité à nouer des récits qui permettent une période comme les Trente Glorieuses, mais on a fait comme ça de la sphère économique une sphère de rationalité, le réel, et de l'autre, il y aurait la politique, la culture, qui seraient des sphères subjectives. Mais en réalité, on sait très bien que l'économie a une part subjective, ne serait-ce que lorsque Dominique Méda dit « réfléchissons à ce qu'on met dans le calcul de la croissance ». Réfléchissons aussi à quoi pourrait ressembler une croissance qui prendrait en compte la transition environnementale. Là, moi, je ne veux pas vous faire profession d'économiste en vous expliquant ce qu'il faudrait faire, c'est pas mon rôle. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, si on veut pouvoir arriver à tracer un nouveau récit, le but n'est pas d'essayer d'avoir les yeux fixés pour se dire qu'on va reproduire dans les mêmes conditions ce passé qui a évolué. C'est ça le message du livre. On ne le fera pas dans les mêmes conditions. Bien sûr que je pense que la plupart des auteurs souhaitent, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre, souhaitent qu'on puisse inventer un récit qui soit celui d'une nouvelle prospérité.
Juste qu'on comprenne bien, pourquoi c'est dangereux de reprendre le logiciel des Trente Glorieuses comme, selon vous, le fait beaucoup la classe politique? En quoi c'est un problème majeur?
C'est un problème majeur parce que, tout simplement, les conditions dans lesquelles on a pensé, ne serait-ce que l'économie ou l'environnement, aujourd'hui, les vérités d'hier, ce sont aujourd'hui des mensonges ou en tout cas des choses qui nous envoient dans le mur, comme le rappelait Natacha Polony. C'est-à-dire, on sait très bien que lorsqu'on pense, par exemple, la croissance économique dans un monde infini, dans les années 60, lorsque vous voyez que à l'époque, un candidat écologiste en 1974 montre un verre d'eau en disant un jour cette ressource sera rare, et tout le monde se moque de lui parce qu'on se dit mais c'est complètement absurde. Aujourd'hui, il y a des capitales sans eau. La capitale du Yémen n'a plus d'eau. Beyrouth au Liban est en train d'être une capitale sans eau. Et ça touche aujourd'hui des zones, Barcelone, et ça se rapproche de nous. Et demain, ça sera chez nous. Donc à ce titre-là, ne pas vouloir prendre en compte le fait fondamental que nous vivons dans un monde fini, en tout cas aux ressources limitées, dont nous devons prendre soin, ça fait qu'on, rien que ça fait qu'on est obligé de changer de capet, quoi.
Gilles, les différentes contributions, de manière impressionniste, essayent de définir un nouvel imaginaire post-Trente Glorieuses, qui est un imaginaire, quand même si on essaye de le caractériser, féministe, écologiste, démocratique, on va dire un imaginaire progressiste. Est-ce que, au-delà de ces éléments impressionnistes, vous avez la possibilité de le résumer? Question difficile. Cet imaginaire. Et surtout, quel est son problème ? Parce que quand on regarde la situation des gauches en France, en Europe, dans le monde, est-ce que le problème est que ce nouvel imaginaire n'a pas été formulé ? Est-ce qu'il n'est pas accepté ? Est-ce qu'il est concurrencé par d'autres imaginaires, imaginaire ancien, celui des Trente Glorieuses, ou imaginaire nouveau? On parlait de Donald Trump tout à l'heure. On avait reçu il y a quelques semaines Michel Ferrer qui avait écrit un essai sur l'imaginaire du Rassemblement National entre les producteurs et les parasites. Donc, c'est quoi ce nouvel imaginaire et quel est son problème?
Vincent Martini.
Oh, question difficile. Alors, qu'est-ce que serait ce nouvel imaginaire? D'abord, vous avez raison, c'est vrai que l'imaginaire contraste. Il y a des différences politiques assez marquées d'ailleurs entre les différents contributeurs, mais ils ont pour point commun quand même de ne pas regarder dans le rétroviseur, ça c'est sûr, et de vouloir inventer une sorte de nouveau progressisme, ça c'est sûr. Mais en même temps, on n'a pas fait un conclave, justement, on vous en parlait tout à l'heure, pour se dire, voilà ce qu'on va dire, voilà la ligne, on n'est pas un parti politique, et à ce titre-là, ce sont des intellectuels qui, chacun dans leur domaine, pensent, il se trouve qu'on a des convergences de pensée. Cet imaginaire, oui, probablement, je ne sais pas s'il est écologiste, tout dépend de ce qu'on appelle écologiste. Il est écologiste parce que c'est une évidence, je ne vois même pas comment on peut discuter le fait de ne pas l'être. Mais encore une fois, et par exemple, il n'est pas catastrophiste. Ça, c'est une dimension très importante. Je pense que le catastrophisme de la période actuelle et la culpabilisation des comportements individuels qui sont corollaires de ce catastrophisme, ils sont des vecteurs majeurs d'immobilisation. Et ça, à ce titre-là, je me semble que François Gémen, et c'est d'ailleurs aussi mon cas, refusons de céder à ce catastrophisme parce qu'on pense que lorsque vous annoncez à une personne qu'elle a une maladie mortelle et qu'elle va mourir dans X années, on imagine toujours que cette personne va faire le tour du monde, va se réconcilier avec tous ses amis, mais pas du tout, elle reste dans sa cuisine parce qu'elle n'arrive pas à y croire. Et nous sommes exactement à ce moment-là. Donc tout ce qui nourrit une logique catastrophiste, sans forcément, encore une fois, vouloir nier la gravité de la situation dans laquelle on se trouve, est négatif. Donc à ce titre-là, quand on dit écologiste, c'est aussi la volonté de pouvoir tracer un récit de en quoi il peut y avoir une compatibilité entre une façon de penser une nouvelle prospérité et la transition environnementale. Parce qu'encore une fois, moi je suis assez frappé de voir que je n'ai jamais entendu personne, même pas le parti qui porte ce nom, m'expliquer en quoi, demain, dans une société où la transition environnementale aura été réussie, je vivrai mieux. On m'explique que on verra peut-être la catastrophe, même pas sûr. Mais on me dit pas en quoi, par exemple, dans une ville nouvelle, il y aura plus de pollution sonore, je respirerai mieux. En gros, j'aurai d'autres éléments pour être plus heureux qu'aujourd'hui. Je crois que c'est une dimension qui manque.
Est-ce que ça répond à la question de
Gilles ? Oui, ça répond à cette question. Ouais. L'imaginaire, il est en train de dire qu'est-ce que serait un futur désirable, si j'ose l'expression. En quoi je pourrais me dire que demain, justement, je serai plus heureux qu'aujourd'hui. C'est le point commun de tous les gens qui ont réfléchi à se dire le but n'est pas de faire un lamento, le but n'est pas d'être rentré dans cette espèce de sinistrose ambiance qui veut dire, soit c'est la catastrophe qui nous arrive, soit c'est la catastrophe qui nous arrive, en plus c'est causé par ce qui est arrivé hier. Et pour reprendre sur la question que vous posiez sur la gauche notamment, il me semble que là, il y a plusieurs façons à gauche, à mon avis, de faire face à ce problème. Il y a ceux qui disent, bon, on n'a qu'à reprendre les mots d'ordre des Trente Glorieuses, hein, le grand soir et compagnie, et ça suffira pour, on va se porter sur les luttes sociales, et ça suffira en reproduisant cet imaginaire-là pour le plonger dans le présent. Il me semble qu'aujourd'hui, ça marche pas très bien. La deuxième possibilité, encore une fois, c'est le catastrophisme. C'est une catastrophe, mais peut-être que si on a un dernier sursaut, on va pouvoir s'en sortir. Ça non plus, ça marche pas. Il me semble que ce qu'on... Et troisièmement, il y a ceux qui disent, bon, essayons de transiger avec la réalité, inventer une espèce de social-démocratie, mais vous rappeliez, Natacha Polony, que la social-démocratie est née du fait qu'il y avait une pression sur le capitalisme qui était tellement fort qu'il a lâché quelque chose. Qu'est-ce que lâche le capitalisme aujourd'hui alors qu'il est totalement débridé? Qu'est-ce qu'a intérêt à lâcher monsieur Trump ou monsieur Musk ou les géants de la tech? Ils n'ont aucun intérêt à lâcher. Donc, c'est vrai que le dit Samuel Hayat dans son chapitre sur les mouvements sociaux, sans reproduire l'idéal des mouvements sociaux des années 60, on a intérêt à réintroduire une forme de contestation sociale, ça c'est sûr. Cette contestation, elle doit s'appuyer aussi sur la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc c'est comme ça que je définirais cet imaginaire, un imaginaire qui est à la fois un imaginaire optimiste, qui ne pleure pas le passé mais qui n'essaye pas non plus uniquement de critiquer le présent, mais aussi un imaginaire qui essaie de le penser dans les termes de la société actuelle.
Un imaginaire optimiste mais pragmatique, si je résume votre pensée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des Trente Glorieuses, c'est le livre que vous venez de diriger aux éditions du Seuil, un livre qui nous invite, on l'a entendu, à sortir du mythe des 30 Glorieuses. Vous serez d'ailleurs avec tous les auteurs le 8 février prochain au Théâtre de la Concorde à Paris pour présenter votre thèse avec tous les auteurs. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier à sa réalisation et aujourd'hui Ludovic Asselot à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.